Et donc, nous allons entendre tout de suite Agnès Piquel pour Le début de l'aventure, Les vraies richesses et les éditions Charlot de 1936 à 1939. Agnès Piquel est professeure émérite à l'Université de Valenciennes. Elle préside la Société des études camusiennes et travaille à la fois sur l'œuvre de Camus et sur son contexte algérien. Et de Camus à Charlot, il n'y a qu'un pas.
Merci Florence, merci d'avoir organisé cette réunion, d'avoir été à l'origine de cette très belle exposition dans la salle à côté. Et merci de m'avoir invitée. Je suis tellement contente de retrouver aussi tous ceux qui étaient au très beau colloque de Montpellier-Pézenas, initié par Guy Dugas il y a quelques semaines. Et je sais que depuis, ils se sont retrouvés, mais c'était là-bas un peu loin, dans d'autres lieux merveilleux où Charlot était à l'honneur. Alors Edmond Charlot a lui-même raconté à Frédéric Jacques-Temple la manière dont il s'était lancé dans l'édition, sur les conseils et les encouragements de Jean Grenier, son professeur de philosophie au lycée d'Alger. Alors je vais d'abord citer assez longuement ce que Charlot dit lui-même à Frédéric Jacques-Temple sur ses débuts, parce que je trouve ça extrêmement émouvant. J'étais fasciné par ce qui était imprimé. J'avais pas mal de contacts avec des écrivains. J'avais déjà une petite bibliothèque que je m'étais fabriquée avec mes premiers gains en donnant des cours dans une école commerciale. À la fin de la classe de philosophie, Jean Grenier nous a demandé ce que nous comptions faire. Je lui ai alors expliqué que j'aurais bien monté une librairie si j'avais eu quelques connaissances, mais que je n'avais pas les moyens de le faire. Mais il m'a dit, vous devriez, en se mettant à deux ou trois, on peut très facilement faire des choses qui semblent insurmontables. Et puis, créer une librairie, mais orientez-vous vers l'édition. Je crois qu'il n'y a guère d'édition en Algérie. Vous avez une place à prendre. Si vous faites quelque chose, venez me voir. Je verrai si je peux vous aider. Fin de ce que Grenier a dit au jeune Charlot. C'est ce qui s'est passé. J'ai trouvé des amis. On a rassemblé quelques sous. Pas grand-chose à l'époque. Je crois que c'était 10 000 francs. Plus ma bibliothèque, vous voyez. C'était pas vraiment énorme. Et on a monté une petite société qui a duré 3 ans et qui s'est appelée Les Vraies Richesses. La seule chose que je répondrai à cela, Jean Grenier ne connaît pas très bien l'Alger de l'époque, parce que dire qu'il n'y a pas d'édition Alger à ce moment-là, c'est un petit peu... Mais enfin, il a dit ce qu'il fallait pour que le jeune Charlot se lance. Je le rappelle, il a 21 ans. Je ne raconterai pas l'histoire de la structure administrative, ni celle de la librairie, Les Vraies Richesses, hein, qui est devenue ce centre de rayonnement qu'a très bien évoqué Guy Dugas. Je me centrerai sur les éditions Charlot et donc seulement avant-guerre, puisque Guy Basset ensuite enchaînera. On a rappelé tout à l'heure la fière devise des éditions Charlot, des jeunes pour les jeunes par les jeunes, mais c'est parfaitement vrai, hein, parfaitement vrai. Ces éditions se développent à la mesure des curiosités insatiables de Charlot, des sollicitations diverses auxquelles il répond avec un flair très sûr et des conseils qu'il sait prendre auprès de ses amis. Alors, voyons cette belle histoire qui se base sur les souvenirs de Charlot lui-même, sur les défricheurs comme Michel Puch et bien sûr sur le monumental catalogue du centenaire « Le chemin est balisé, je n'avais qu'à y avancer tranquillement ». Avant même que ne s'ouvre la librairie Les Vraies Richesses, le 3 novembre 1936, on l'a dit, les éditions sont nées à partir d'un événement dont Charlot a su percevoir l'importance. Fin 1935, Camus, qui vient à ce moment-là d'adhérer au Parti communiste d'Algérie, a créé, dans le sillage de la politique culturelle communiste, un théâtre populaire et politique dans la perspective de Front populaire. Avec ses amis, adhérents ou non au parti, il a créé le Théâtre du Travail, où les talents divers se conjuguent dans l'enthousiasme. Ils sont tous parfaitement inexpérimentés et ils inventent le métier en le pratiquant. Charlot les connaît presque tous, entre autres par le lycée. En avril 1936, je raconte un peu plus en détail l'histoire, la troupe se propose de monter révolte dans les Asturies. 1936, hein, la révolte à Oviedo date de 1934, mais la guerre d'Espagne vient de éclater. Et ils ont voulu, à partir de cette insurrection des mineurs et des ouvriers d'Oviedo, inventer une pièce de théâtre qui soit un essai de création collective. Alors, on dit toujours, c'est Camus qui l'a écrite. Non, ils l'ont vraiment écrit à 8 mains. Ils étaient 4, même si l'on peut penser que Camus a joué un rôle central. Mais Camus a toujours refusé de dire qu'il était l'auteur. Il a toujours dit, mais enfin, ça existe, une création collective. C'est ce qu'on a tenté de faire. Alors, bien sûr, la pièce est reprise dans les œuvres complètes d'Albert Camus, mais avec toutes les précisions nécessaires pour rendre aux amis de Camus ce qu'ils ont fait. La préfecture, c'est intéressant, ça donne l'autorisation, mais la municipalité d'Alger interdit la salle. Alors, que fait Charlot à ce moment-là? Il fait imprimer et distribuer un tract de couleur vive avec un grand bandeau « Le théâtre du travail est interdit ». Il dénonce dans un texte extrêmement énergique la mesure arbitraire, il incite à la protestation et il affirme, je le cite, « d'une façon ou d'une autre, révolte dans les Asturies sera connue du public ». Et j'ai beaucoup aimé l'analyse que François Bougliolo dans le catalogue, parce que le catalogue n'est pas seulement un catalogue, il y a aussi beaucoup de textes d'accompagnement. Et dans un de ces textes d'accompagnement, François Bougliolo propose de voir dans ce papier, ce tract, une première publicité des futures éditions. Je signale que tout cela est reproduit dans le fameux catalogue. Je vous assure que je n'ai absolument aucun intérêt à cette publicité, mais je trouve que c'est un travail extraordinaire qu'ils ont fait. Et comme ils m'ont fait l'amitié de me faire un petit peu témoin de ce travail pendant des mois et des mois, je voudrais simplement souligner cela. Alors maintenant, je cite ce que Bougliolo dit de ce tract. Il faut bien nommer ainsi, il dit qu'il faut y voir une première publicité des futures éditions. Car il faut bien nommer ainsi cet acte fondateur des éditions Charlot qui rend public, sens premier de publicité dans tout dictionnaire, une information, l'interdiction de la pièce de théâtre qu'avait prévu de jouer Camus et sa troupe. Mais en même temps, et c'est toujours Bougliolo qui parle, d'où l'intérêt de ce lancement, le futur éditeur E.C., annonce une publication d'une façon ou d'une autre, sorte de suspense qui fait attendre une suite. Or, il n'existe pas 32 façons, mais deux seules, l'oral ou l'écrit. L'oral, statut assigné au théâtre, n'a pu jouer son rôle de publication de la pièce. L'écrit va donc s'en charger. Les éditions Charlot viennent de naître en public, pour le public. Alors, j'aime beaucoup cette analyse de François Bougliolo, qui veut voir dans ce tract, qui est un acte militant de lutte contre la censure, la naissance des éditions Charlot, et je partage tout à fait son analyse. Alors, de fait, Charlot publie la pièce en mai 36 avec le bandeau « La pièce interdite par la municipalité ». À la place du nom d'auteur, vous le voyez, vous l'avez à côté, hein, dans la première vitrine, merci Guy. « Essai de création collective ». À la place du nom de l'éditeur EC en minuscule et la mention tout en bas à Alger pour les amis du théâtre du travail. Alors, ce que l'on constate en regardant cette couverture, que je trouve extraordinaire, c'est que Charlot s'efface, comme se sont effacés les amis de la troupe, Essai de création collective. EC est tout petit, au point qu'il y a des gens qui ont dit « mais c'est Camus !» Et Camus dit « non, attendez, moi, c'est pas EC. » Mais les éditions Charlot commencent sur un coup d'éclat, on s'en souviendra longtemps. Et Jean Grenier approuve. Il écrit « vous êtes sur la bonne voie, il faut continuer. Si vous voulez, je vais vous donner un texte. » Il a promis, il va faire. Alors, le jeune éditeur tâtonne pendant l'été et l'automne 36. D'une part, il fonde les éditions de Maurétanie, qui est le nom du territoire des morts dans l'Antiquité, qui publieront en tout 3 volumes jusqu'en février 37, un récit d'aviation, il est passionné d'aviation, un compte-rendu de voyage par une peintre admiratrice du système soviétique, un recueil de poèmes d'un tout jeune écrivain. D'autre part, en même temps que ces éditions de Maurétanie, pour étendre son catalogue, je trouve très, très avisé déjà, il rachète une toute petite maison d'édition, les éditions de la Palangrotte. On regrette, c'est tellement joli comme nom. Il rachète tout le stock d'une enquête documentaire sur Alger qui s'intitulait « Hommes de peine et filles de joie » de René Janon. Là encore, je trouve très astucieux, hein, notre jeune Charlot. Il ne rachète pas n'importe quoi. Un livre qui va intéresser, c'est évident. Il rejaquette les exemplaires. Ce n'est pas du tout une pratique interdite. Hein. C'est une pratique parfaitement courante, dont d'ailleurs il sera peut-être d'une manière un tout petit peu moins, comment dire, juste. Il en sera lui-même la victime plus tard. Par une grande maison que je ne nommerai pas, mais dont le nom commence par un G. Enfin et surtout, dans cet été et cet automne, il lance les éditions Charlot proprement dites avec l'Annonciation à la licorne, recueil de René-Jean Clos qui est à la fois peintre et poète. C'est un recueil de poèmes. On le constate déjà, dans ses tout premiers mois, quel que soit le modèle économique, Charlot cultive la diversité et il prend des risques. Il publie de la poésie, il soutient des premières œuvres, et il ne joue pas sur la facilité. L'ouverture de la librairie le 3 novembre va lui permettre de développer son activité en même temps quand même qu'il réalise son premier projet. Il voulait être libraire. Mais la manière, je sais que ça ne concerne pas l'édition, mais la manière dont il en parle de ses débuts est extraordinaire. On y faisait tout, même des expositions, c'est vrai. Il y avait un petit fonds de librairie, neuf et occasion mélangées. Il y avait un abonnement de lecture qui comportait quelques centaines de livres choisis. Au bout d'une année, j'ai eu un cabinet de prêt qui fonctionnait bien. Tiens, il commence plein d'activités avec trois fois rien, deux bouts de ficelle. Et on a, au bout de quelques mois, une maison d'édition, une librairie, un cabinet de prêt. Et tout ça tourne. Tiens, quelle énergie incroyable. Alors, par son nom, Les Vraies Richesses, le lieu est mis sous le signe de Jean Giono, puisque c'est une œuvre de Jean Giono qui paraît cette même année. Mais le parrainage prestigieux du nom se double d'une publicité pour les éditions qui, pour l'occasion, s'appellent elles aussi des vraies richesses. C'est-à-dire qu'au tout début, les éditions Charlot, ce sont les éditions des vraies richesses. Les premiers clients de la librairie se voient offrir une plaquette contenant un texte du même Giono, Rondeur des jours. Beau début. Mais Charlot aurait voulu faire beaucoup plus. Quand Frédéric Jacques-Temple l'interrogera sur sa carrière d'éditeur, il lui dira « Je l'avais entreprise très sérieusement, mais je n'avais pas les moyens. Si je les avais eus, j'aurais fait 10 livres par mois dès le départ. » Et croyez-moi, quand on voit son activité, on pense qu'il en était tout à fait capable. Pour les années suivantes, puisque je suis là au milieu de 36 et que je dois aller jusqu'à 39, je ne vais pas suivre le fil chronologique comme je viens de le faire pour les débuts. Je vais d'abord dire quelques mots sur le fonctionnement des éditions, puis j'étudierai la grande collection des débuts, c'est-à-dire méditerranéenne. Je parlerai ensuite des choix éditoriaux et de la revue qu'abritent les éditions Charlot. Sur le fonctionnement, partons aussi du témoignage de Charlot. Il dit ceci, il ne faut pas oublier que Camus a joué le rôle de 36 à 42 de directeur littéraire. C'est un grand mot, parce qu'en fait, la maison d'édition, c'était moi seul. Camus venait aider quelques heures le matin quand il était là. Camus aussi, on se demande comment il trouve le temps de tout faire. Il termine ses études, il a ses amours, il a son travail, il a son écriture, et il vient aider quelques heures le matin comme directeur littéraire. Ben voyons. Je veux dire, ils sont étonnants tous ces jeunes gens. Lui, il a quoi 23 ans. Alors à partir de 40, vous allez me dire, mais pourquoi il dit jusqu'à 42? En 40, Camus quitte l'Algérie, il y revient en 41, mais il la quitte définitivement en 42. Mais pendant ce temps-là, il continue à envoyer des fiches de lecture à Charlot. Mais c'est bien Charlot qui prend les décisions et qui veille à tout. Alors, regret immense de ne pas avoir ces fiches de Camus. Mais on vous l'a dit, Charlot a perdu toutes ses archives dans un double plasticage, doublé, m'a-t-on dit, d'un naufrage de bateau. Enfin, pas d'un naufrage, de la cale. Inondation d'une cale. Enfin, ça fait le naufrage de la valise. Hein. Bon. Excuse-moi. Alors, pour parvenir à l'extraordinaire qualité de ses livres, Charlot s'appuie sur des imprimeurs de confiance. Il y a à Alger une tradition de qualité typographique qui remonte à la fin du XIXe siècle. Des très grands imprimeurs typographes travaillent à Alger depuis longtemps et souvent, ils sont eux aussi imprimeurs, éditeurs, libraires. Alors, Guy Basset a étudié, je ne vais pas reprendre, toujours, dans le livre dont je vais vous citer le titre, il a étudié les imprimeurs
Il en retient trois principaux pour la période qui nous concerne. Sinon, il y en a eu beaucoup plus. L'ancienne imprimerie Victor Heinz, devenue Emmanuel Andréot, la maison Studium et l'imprimerie de Claude de Fréminville. Je vais parler à plusieurs reprises de Claude de Fréminville. C'est un ami très proche de Camus. Il a une fortune personnelle et dès qu'il entre en possession de cette fortune, il achète une imprimerie qui lui permet de soutenir concrètement les entreprises culturelles et politiques auxquelles il participe. Alors, je vous avais dit qu'après ces quelques mots sur le fonctionnement, j'étudierai la collection principale et elle s'intitule « Méditerranéenne ». Elle commence dès 1936 puisque le premier livre dont j'ai parlé, « L'Annonciation à la licorne » de René Jean-Clos, est le premier volume de la collection méditerranéenne. Charlot explique qu'il s'agissait, avec ce titre, de s'inscrire, entre autres, dans le sillage de Gabriel Audizio et de son essai « Jeunesse de la Méditerranée ». Et l'on a vu que cette Méditerranée est un fil conducteur pour Charlot pendant toute sa carrière, mais il n'est pas tout seul. Cette pensée de la Méditerranée est centrale dans ce micro-milieu algérois. Il s'agit pour eux tous d'arracher la pensée de la Méditerranée aux nostalgies d'une latinité mythique dont Mussolini est en train de s'emparer et de dire non, non, la Méditerranée, ça n'est pas cette latinité dont vous voulez faire le fondement de votre entreprise, mais de montrer que c'était le lieu de potentialité extraordinaire d'artistes qui vivaient, et quand je dis artistes, poètes, peintres, etc., qui vivent dans la Méditerranée. Et on peut dire que c'est autant une Méditerranée grecque et plus qu'une Méditerranée latine. Mais cette pensée de la Méditerranée, elle est absolument au centre des préoccupations de tous, et en particulier aussi de Camus. Par exemple, quand il prononce le discours d'inauguration de la Maison de la Culture d'Alger, dont il est le secrétaire, début 37, le titre c'est « Pour une culture, une nouvelle culture méditerranéenne ». Il s'agit en même temps de s'éloigner des algérianistes. Donc c'est extrêmement ciblé, l'air de rien, Charlot entre dans cette pensée extrêmement novatrice et qui a valeur, j'allais dire, d'avant-garde dans la pensée et dans l'art pour eux tous. Dans la première série, 36-38, cette collection méditerranéenne aura 9 titres. Elle rassemble des noms prestigieux. Avant de les mentionner, je voudrais dire tout de suite que celui qui a été le premier parrain, Gabriel Audizio, y donne 2 volumes, successivement « Amour d'Alger » et « Les poèmes de la cage ouverte ». Alors venons à ces choix éditoriaux de Charlot entre 36 et 39. On a d'abord les grands aînés tutélaires. Audizio, je viens de le dire. Mais on a aussi le texte promis par Jean Grenier. Il a promis, il donne. Il a sûrement donné de l'argent au début, il donne un texte. Ce sont des essais réunis sous le titre « Santa Cruz et autres paysages africains ». Très, très, très beau texte. On a aussi une étude de Jean Ittier, professeur à la faculté des lettres d'Alger, qui donne un André Gide. Vous voyez que les sommités intellectuelles de l'époque, ce ne sont pas n'importe qui, hein, ces universitaires-là, donnent des textes. Autrement dit, ils font confiance à ce tout jeune éditeur. Et ce n'est pas parce qu'il a fait de brillantes études universitaires. Il est allé un peu à l'université, et puis non, c'était la librairie. Donc, par admiration, par amitié pour Charlot et pour la bande à Charlot, il donne de ces livres-là. On a ensuite, après les grands aînés, les amis proches. Ce sont souvent les premiers livres de ces amis proches. Ils ont le même âge. Alors, c'est les deux premières publications de Camus, « L'envers et l'endroit » en 37, « Noces » en 39. Ce sont les poèmes de Max-Paul Fouché. Je n'ai pas le temps de vous raconter toutes ces amitiés-là, mais ce sont des amitiés de lycée. Les poèmes de Max-Paul Fouché, « Simple sans vertu ». Les poèmes, vous entendez le nombre de publications de poèmes ? Les poèmes de Claude de Fréminville « À la vue de la Méditerranée ». Nous revoilà dans la Méditerranée. Je voudrais m'arrêter un peu au destin de ce livre. La première édition est de décembre 37. Elle est tellement fautive, pleine de fautes de typographie, que Charlot met au pilon la quasi-totalité des 350 exemplaires. Pardon, allez, achevez. C'est Fréminville. Oui, mais enfin, Charlot, il a accepté. Oui, on est d'accord. C'est peut-être, oui, c'est sûrement même, Fréminville qui est responsable des erreurs typographiques. En tout cas, s'est mis au pilon, ce que je trouve tout à fait extraordinaire, et Charlot le republie en 38. La qualité, l'exigence de qualité, et on voit bien le résultat ici à côté. En parcourant cette liste de publications des années 36, 37, 38, 39, on est frappé par l'abondance de la poésie, je l'ai dit, mais aussi par la présence importante de femmes écrivains. J'en en citerai qu'une, mais il y en a plusieurs, et on le voit aussi. La Sève des jours de Blanche Ballin, qui était une amie de Camus, mais il y en a d'autres. On a la présence de livres pour enfants, je suis très contente qu'ils aient une vitrine. Et puis, on est frappé pour ces livres pour enfants de la qualité de leurs illustrations et des textes. Il y en a un qui n'est pas là, mais Marie-Sylvaine m'a promis de me le montrer, mais je vous dis le titre, c'est pour les tout petits. La bébête coucou, ou pourquoi les maisons marchent-elles à quatre pattes ? Je voudrais vraiment voir ce livre. Il paraît qu'il y a un exemplaire et il sera bientôt revenu à Pézenas. Et je le redis aussi, Charlot fait confiance à de tout jeunes talents au point que Guy Basset et François Brugliolo ensemble, il y a des auteurs dont ils ignoraient l'identité. Je veux dire, ils le voyaient sur les lits, mais ils ne savaient pas qui c'était. C'était donc des inconnus, ils le sont peut-être restés, mais à eux deux, je crois qu'ils sont en train de régler toutes les... tous les points d'interrogation de cette liste. La passion de Charlot pour la peinture se marque aussi dans ses choix éditoriaux. L'art est à l'honneur dans sa librairie, mais aussi dans ses livres. On a l'ouvrage d'un spécialiste de peinture, un recueil de poèmes d'une femme qui est peintre et sculpteur, elle s'appelle Rose Ercole. On a un recueil de bois gravés. On a bien sûr des illustrations, et ce sont des illustrations par des grands artistes. Par exemple, le recueil de Blanche Ballin est illustré par Marie Vitton. On a un livre d'art somptueux. Le livre d'art de Christian de Gâtine, qui est peintre et graveur en même temps qu'écrivain, et il peut faire ce livre d'art chez Charlot. En cette période bénie pour les revues, Charlot ne pouvait pas être en reste. D'autant qu'il rencontrerait là un vieux rêve de Claude de Fréminville qui, en 1934, projetait déjà de fonder avec ses amis Camus, ils n'avaient même pas 20 ans à l'époque tous, Albert Camus et André Bellamiche, une revue qui se serait appelée La Nouvelle Journée. Cette revue n'existera pas, mais en 1938, Charlot lance Rivage, revue de culture méditerranéenne. Vous voyez la permanence de cette inspiration. Il en est le gérant administrateur. Cette revue était prévue pour être un bimestriel. Il y aura un numéro 2 en février-mars 1939. Au comité de rédaction, la génération des aînés, Odizio, Ergon, Itier, vous allez me dire Grenier, il a quitté Alger. Il est allé continuer sa carrière à Lille et il la terminera à la Sorbonne. Et puis, on a la génération suivante au comité de rédaction de Rivage, Camus, Clos, Fréminville. Tous sont publiés chez Charlot. Quand on regarde Rivage, presque toute la publicité de Rivage est consacrée à Charlot, si bien que Guy Basset peut affirmer, la revue fonctionne comme une annexe des éditions Charlot, constituant quasiment un catalogue. Comme l'indique son sous-titre, la revue est axée sur la Méditerranée, comme la collection. Ce qui est mis en avant, ce sont les littératures des pays de Méditerranée occidentale, l'Espagne, l'Italie, l'Algérie. Mais ce qu'il s'agit de célébrer surtout, c'est l'esprit méditerranéen, marqué par la passion de vivre et par le sens de la beauté. La revue a également partie liée avec le théâtre de l'équipe. Camus, après le théâtre du travail, quand il a quitté le Parti communiste, a fondé une autre troupe, même si il a emmené avec lui beaucoup de ses amis. C'est le théâtre de l'équipe. Et le numéro 2 de Rivage publie le manifeste du théâtre de l'équipe, qui est présenté comme le théâtre d'études de la revue Rivage. Vous voyez, les liens sont extrêmement étroits. Un numéro ultérieur de la revue devait être consacré à ce théâtre de l'équipe. Selon François Bogliolo, la revue a publié un numéro 3 consacré à Lorca et l'Espagne. Mais c'est un numéro qui a été saisi par la censure. Et dit François Bogliolo, il n'en subsiste aucun exemplaire. Alors, si Charlot offre à ses amis le débouché de ses éditions, il reçoit d'eux un soutien sans faille. Et je voudrais en prendre quelques exemples. Et d'abord, citer une très belle phrase de Louis Benisti, qui fait donc partie de ces peintres, sculpteurs, amis de Charlot et exposés chez Charlot, les petits formats. Parce que dans les vraies richesses, on ne peut pas exposer des grands formats. C'est tout petit, hein, il paraît. J'ai vu que de dehors, parce qu'elle existe encore, c'est encore une bibliothèque de près, que quand on étend les bras, on peut toucher les deux côtés. Je crois que c'est presque vrai. Alors, Louis Benisti avait écrit en 1988 un texte qu'il intitulait « La ferveur », où il montrait que eux, jeunes gens, affamés de savoir et brûlants de désir, je le cite, trouvaient une réponse aux vraies richesses. Et il reprend quelques années plus tard son texte en opérant un raccourci entre le moment où il rencontre Maison Seule et Camus et le moment où Charlot ouvre sa librairie. Et il trace un chemin de eux tous. Et il y a un très beau dessin qui était l'exposition de Pézenas de Brouty sur une sorte de presque de procession vers les vraies richesses. Et c'est l'équivalent, me semble-t-il, de cette phrase de Benisti que je vous lis. Maison Seule me présenta à Max-Paul Fouché, Louis Miquel et Pierre Emery qui devinrent nos amis. Enfin, Max-Paul Fouché nous entraîna vers un de ses condisciples, Albert Camus. Nos pas suivirent alors un chemin de ferveur qui nous conduisit jusqu'au seuil des vraies richesses. Au-delà de la vitrine, au-dessus des dernières parutions, nous apercevions la silhouette d'Edmond penché sur son bureau. Vous voyez, on a l'impression que la troupe grandit et ils vont tous vers Charlot, vers ses éditions. Je trouve que cette phrase de Louis Benisti est très belle. Charlot aussi se souvient. C'est peut-être la raison, dit-il, pour laquelle cette petite librairie a eu à l'époque un certain retentissement. Ben voyons. Parce qu'il s'est formé autour d'elle un noyau de gens qui venaient là parce qu'ils se sentaient chez eux. Ils participaient. C'était un peu leur affaire. Il y avait une espèce de symbiose. Fin de citation. Charlot peut s'appuyer sur ce petit noyau et en particulier sur Camus et Fréminville. Quand Camus est recruté en octobre 38 par Pascal Piat, un ami, comme journaliste à Alger Républicain qui vient de se fonder, très vite, il prend la critique littéraire sous le titre, la rubrique sous le titre « Le salon de lecture ». Pendant un an, il rencontre d'écrivains de toutes sortes, des grands, Sartre, Chanson, Bernanos, des étrangers, Huxley, Sillon, mais il fait aussi des chroniques sur les publications de Charlot. Autrement dit, il donne aux éditions Charlot la caisse de résonance d'Alger Républicain. Toujours fin 38, les éditions Charlot reçoivent un soutien plus large encore avec l'aventure de la revue algérienne, que je voudrais très rapidement rappeler, parce qu'elle est menée par les mêmes de cette joyeuse bande. Vous allez me dire, ils ont déjà la librairie Charlot, ils ont la revue Rivage, la collection Méditerranée, que leur faut-il encore ? Deux de leurs amis, Jean et Paul Raffi, voulaient rénover une revue de cinéma, mondanité, potin, elle est assez étonnante, bon, que la famille, leur famille, Raffi Malbé, possédait depuis toujours. Et ils lancent une nouvelle série de cette revue algérienne. Ils la lancent en novembre 38 et elle ne fait pas concurrence à Rivage, ni aux vraies richesses. Elle la complète parce qu'elle se consacre plutôt à l'art et elle assure une très, très large publicité pour la revue Sœur, qui, elle, est plutôt tournée vers la littérature. Et les deux revues, hélas, seront emportées par la guerre, mais c'est incroyable de voir les deux comités de rédaction et les signatures dans l'une et l'autre revue, c'est la même bande, mais avec un tout autre concept, et c'est les amis de l'époque. On l'a dit, la librairie et l'édition de Charlot sont aussi en lien très profond avec la Maison de la Culture, qui n'est pas un bâtiment type Malraux des années 60, hein, qui est simplement la, simplement, c'est énorme, la fédération de différents organismes d'éducation populaire, et dont, je vous l'ai dit, Camus était le secrétaire. Évidemment, on l'a dit, les deux sont tout près. La Maison de la Culture est au 8 et Charlot au 2 bis, mais on peut prendre l'adhésion à la Maison de la Culture chez Charlot. Vous voyez, tout ça va ensemble. Je vous disais soutien des amis à Charlot. Bien sûr, il faut parler des éditions CAFRE, dont vous avez déjà entendu parler. C'est le signe de l'amitié de Camus et Fréminville, CAFRE, hein, Camus-Fréminville, à Charlot. Les deux amis, donc Camus et Fréminville, se sont rencontrés au lycée Bugeaud. Ils étaient aussi brillants l'un que l'autre, inséparables, mais ils avaient eu des trajectoires très différentes. Claude Depoix de Fréminville est d'une famille, je termine, je sens que ça s'agite près de moi, d'une famille extrêmement aisée d'Oran, mais dont il fait tout pour s'affranchir. Il vient faire ses études supérieures à Alger, il y met l'engagement politique et culturel, il commence à écrire. En 1934, il part tenter l'aventure parisienne. Il adhère à ce moment-là au Parti communiste, mais revient à Alger parce que ses amis ont lancé le Théâtre du Travail, puis le Théâtre de l'Équipe, et parce qu'il y a Charlot. Et qui se dit qu'il ne peut pas être à Paris pendant que tout cela... On a les lettres de Fréminville. Pendant que tout cela se passe là. Il revient et il reprend ses activités culturelles. Il achète cette imprimerie et c'est de loin celui qui, de toute la bande, est le plus en contact avec les milieux indépendantistes algériens. Comment se passent ces éditions CAFRE ? Je laisse aussi la parole à Charlot. Je dus en 1938, pendant plusieurs mois, suspendre mon activité d'éditeur. Camus créa alors, avec son ami Claude de Fréminville, qui venait de s'installer, une petite imprimerie, rue Barbès à Alger, les éditions CAFRE, qui prirent le relais et publièrent quelques volumes du programme que nous avions établi, Camus et moi-même. Il les cite et il termine autant de volumes dont je repris l'exploitation quelques mois plus tard. Je trouve ça extraordinaire, parce que Camus et Fréminville ne se substituent pas à Charlot. Ils assurent la continuité des éditions, dans le même esprit, en tenant les promesses qu'avait faites Charlot. Et quand celui-ci revient, Camus et Fréminville lui rendent les rênes, et Charlot reprend à son compte les projets que les deux amis ont initiés pendant son absence. Il y a une sorte de passage de relais que je trouve tout à fait extraordinaire parce que on voit bien que cela ne peut fonctionner comme ça que sur la base d'une très grande amitié. Je voudrais aussi signaler, même si ça appartient déjà à la période suivante, mais c'est pendant la période CAFRE que commence une collection qui va avoir une très très grande importance, poésie et théâtre. Une collection dirigée par Camus. Je n'en dirai pas grand-chose parce qu'elle ne fait que commencer ici, mais c'est dans cette amitié Camus-Fréminville-Charlot qu'est née cette idée d'une collection poésie-théâtre. Et vous voyez que ça s'inscrit aussi dans la suite des choix de Charlot de donner une place prééminente à la poésie. Je rappelle en conclusion que ces années que je viens d'évoquer, ce sont des années pendant lesquelles Charlot a entre 21 et 24 ans. Je crois qu'il faut le redire. La direction que, malgré les difficultés de toutes sortes que l'on peut deviner, il parvient à imprimer à son entreprise témoigne de ses qualités. Et l'épanouissement des éditions Charlot pendant la guerre et ensuite n'est pas le fruit de la chance. Il y aurait eu de bonnes circonstances. Il est le résultat de ces années absolument passionnées dont tous, absolument tous, se souviendront comme de leurs plus belles années. Je vous remercie. Oui, je sais, il y a plein d'affaires. Tu me diras après.
Agnès, merci beaucoup pour cette étude très riche et très vivante de la genèse des éditions Charlot.